Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Startup. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Fabre, bonjour.
Bonjour, bonjour Bérénice, merci beaucoup.
Alors, président et cofondateur de Zephyr, créé en juillet 2020, nouveau modèle dont on parle beaucoup en ce moment, enfin de plus en plus, hein, qui révolutionne le secteur de la transaction immobilière. Alors, je vous laisse nous présenter cette plateforme.
Oui, merci beaucoup. Donc, Zephyr, c'est de la vente immobilière instantanée. On permet aux propriétaires de vendre leur bien immobilier donc directement à Zephyr, assez simplement, en ligne et en quelques clics. Et donc, comment ça marche? En général, ils viennent sur zephyr.fr, ils font une demande d'offre d'achat. On fait une première estimation, un expert passe et ensuite ils reçoivent une offre d'achat et donc sous 7 jours.
D'accord, donc un expert Zephyr du coup se rend sur place.
Oui, alors pas forcément, ça peut être aussi des experts externalisés, donc des personnes avec qui on travaille, qui s'occupent de faire la visite sur place et tout. En fait, ils vérifient les points de données qui ont été remplis dans le formulaire. Donc par exemple la surface, l'état du bien, ce genre de choses.
D'accord, donc vous devenez acheteur en fait du bien.
Oui, donc nous, l'idée, c'est de sécuriser la vente immobilière. On fait une offre d'achat, on signe un compromis. Les propriétaires connaissent le montant net vendeur. Ils peuvent se projeter et ensuite, eux, ils peuvent acheter leur nouveau bien. Donc, en général, ils sont beaucoup plus sereins de se lancer dans leur projet immobilier.
Oui, ça prend moins de temps, 7 jours, du coup. Ce modèle est très répandu aux États-Unis, je crois. Pas trop en France pour l'instant. En tout cas, c'est en train justement de se répandre, mais grâce à vous, notamment. Mais du coup, c'est très répandu aux États-Unis.
Alors, aux États-Unis, ça a été lancé, je crois, en 2014 ou 2013 par une société qui s'appelle Open Door, qui est maintenant cotée en bourse. Et donc, c'est devenu une grosse part de marché sur beaucoup de villes. Donc, maintenant, il s'étend énormément. Et donc, le principe, c'était vraiment de se dire, bon, bah, il y a une solution alternative à la vente traditionnelle qui est assez incertaine, qui est assez complexe. Il y a beaucoup d'intermédiaires. On ne sait pas combien on va vendre. On ne sait pas si notre acquéreur va obtenir son crédit. Et eux se sont dit, bah, en fait, pourquoi pas se porter directement acquéreur en tant que société pour proposer une sécurité de vente. Et donc, ça a très bien marché donc, sur toutes ces années-là. Ils sont rentrés en bourse, je crois, fin 2020. Et donc, maintenant, ils font 40 000 transactions annuelles. Donc c'est quand même une bonne pénétration, mais encore rien du tout comparé au vaste marché immobilier américain.
Aujourd'hui, qui sont vos clients? Alors pas au niveau géographique, on en parlera plus tard, mais quels sont le profil de vos clients?
Oui, alors en fait, c'est des gens qui veulent de la sérénité, de la simplicité. Donc soit c'est des gens qui ont déjà trouvé leur nouveau bien. Donc par exemple, ils vont chercher sur peu importe la plateforme, ils vont se dire bon bah génial, c'est la maison de mes rêves, j'ai envie de l'acheter, mais j'ai pas encore vendu. Donc c'est en général forcément des vendeurs, propriétaires, et souvent également acheteurs. Et donc là, ils vont se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage avant d'avoir vendu? Mais il y a beaucoup de risques, je ne sais pas combien je vais vendre, je ne sais pas quand je vais vendre, je vais avoir la pression de la banque. Il suffit d'avoir un autre métier, une famille, des choses à gérer, un enfant. Et là, ça devient très vite extrêmement compliqué, extrêmement stressant et pesant. Et donc, en général, c'est à ce moment-là qu'ils se tournent vers nous. Et après, il y en a d'autres, c'est simplement la simplicité. Donc, comme on l'a dit, c'est extrêmement long, beaucoup d'intermédiaires, on ne sait pas combien on va avoir. Et donc, quand on a autre chose à faire, bah, parfois, on préfère simplement être sécurisé, vendre en quelques clics, plutôt que passer par un process traditionnel qui va durer plusieurs mois avec de l'incertitude et beaucoup de complexité et de parties à gérer aussi. Parce que nous, Zephyr, c'est un seul intermédiaire pour toute la transaction et tout le changement de vie. Mais quand on vend de façon traditionnelle, pardon, on a les notaires, les courtiers, les agents immobiliers, le banquier.
Donc là, vous occupez de tout, en fait.
Oui, nous, il y a vraiment un seul intermédiaire Zephyr. Et ensuite, on s'occupe de tout le changement de vie pour la personne. On ne s'occupe pas encore de l'achat, c'est-à-dire on ne va pas négocier l'acquisition ou avec les potentiels vendeurs de la maison que notre client souhaite acheter. Mais sinon, on l'accompagne sur tout son cycle de vie. Et il sait qu'il peut avoir toujours quelqu'un qui répond de manière très rapide et qui est toujours là à ses côtés tout au long de la transaction.
Et ça, vous y pensez à accompagner le client pour un prochain achat?
Alors, on y pense, c'est pas encore dans les plans aujourd'hui. On a eu les premiers, ce que nous on appelle des swaps. Donc en fait, c'est des personnes qui achètent un bien Zephyr et qui nous vendent leur bien. Donc en fait, ils font vraiment un échange de biens avec un autre bien qui est sur la plateforme.
Bien sûr.
Donc là, pour eux, c'est l'expérience parfaite parce que c'est de bout en bout. Oui. C'est vraiment un échange de clés et nous, ensuite, on donne la différence en fonction du prix de vente parce que forcément, les deux biens ne sont pas exactement
au même prix.
Mais sinon, du côté acquisition, c'est pas vraiment de l'accompagnement, on est en train de développer pas mal de choses, mais plus côté produit. Et donc, se dire à comment on peut proposer une meilleure expérience de recherche, comment est-ce qu'on peut proposer, par exemple, de juste prendre ses visites directement en ligne sur la plateforme Zephyr, qu'aujourd'hui, vous allez sur Le Bon Coin, vous allez sur Se Loger, il est impossible de même prendre une visite en ligne Avec quelques clics, si vous n'avez jamais les disponibilités des personnes qui sont propriétaires vendeurs, vous avez juste le numéro de téléphone et tout se fait hors de la plateforme. Et donc nous, l'idée vraiment, c'est de recentraliser tout le changement de vie, donc la vente, l'achat, sur une seule et même plateforme avec tous les services qui tournent autour. Donc ça pourrait être obtenir son crédit immobilier, passer ses factures de son ancienne maison à sa nouvelle maison, vendre son bien immobilier, le vendre directement à Zephyr, le vendre avec Zephyr, des propositions pour les acquéreurs également. Donc on réfléchit à pas mal de choses. Aujourd'hui, on est quand même essentiellement concentré sur la vente du bien, qui est le plus gros problème en général pour nos clients.
Et alors, le bien, vous l'achetez sous 7 jours. En revanche, les fonds, combien de temps le déblocage des fonds? Est-ce qu'ils arrivent rapidement ou pas pour
En fait, en général, on s'adapte aux besoins du client. Donc ce qui se passe souvent quand ils ont besoin des fonds, c'est qu'ils ont un bien en face à acheter. Et donc ils ont besoin des fonds à la signature de l'acte authentique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on signe l'offre d'achat en 7 jours. Et après, les fonds sont débloqués par des partenaires bancaires. Et là, ça peut prendre 60, 30, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui souhaitent rester dans le bien, qui n'ont pas besoin des fonds tout de suite. Et donc dans ce cas-là, ça prend plus longtemps.
D'accord. Alors, quel est votre business model?
Oui, alors nous, c'est un business model qui est assez similaire au business des agents immobiliers. Donc, on prend un frais de service sur la transaction et donc sur la valeur du bien. Donc, en fait, c'est le vendeur qui, au lieu de vendre en PAP, où imaginons que son bien vaut 100 000 euros, il l'aurait vendu 100 000. Là, il le vend avec un intermédiaire et donc il donne un pourcentage de la valeur du bien à cet intermédiaire. Et donc, nous, nos frais de service, aujourd'hui, sont de 6 à 8%. Ça dépend des villes, donc c'est un tout petit peu plus cher qu'une agence immobilière traditionnelle pour un service totalement différent, parce qu'on ne fait pas juste l'intermédiation de la vente du bien, mais on sécurise aussi la vente, on lui donne un budget, il sait exactement combien il a, enfin le vendeur, et il peut se projeter avec la liquidité.
Oui, c'est des soucis en moins pour le vendeur. Oui. Et alors, le prix du bien, donc vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un expert qui vient, mais comment vous le calculez vraiment précisément?
Alors, on a pas mal de méthodologies. Nous, c'est vraiment notre corps de métier. On a toute ce qu'on appelle chez Zephyr une business unit, donc qui s'appelle le pricing. Et donc là, il y a plein de corps de métier. Ça va être des ingénieurs, de la data science, des outils, des experts immobiliers qui connaissent très bien les types de biens, des personnes en opération pour créer des process. Et donc, en fait, aujourd'hui, comment ça se passe? Le client remplit un formulaire. Donc là, il donne beaucoup d'informations sur son bien. Donc, par exemple, la surface, la couleur des murs, est-ce que le sol est en parquet ou c'est de la moquette? Ça nous permet de donner une première offre indicative, qui n'est pas toujours parfaite. D'ailleurs, on travaille actuellement dessus pour l'affiner sans avoir forcément vu le bien et en ayant très peu d'informations. Mmh. Ensuite, l'expert passe. Donc, l'expert, il va vérifier les informations du formulaire et prendre jusqu'à 100 points de données, donc des points additionnels sur le bien. Donc, par exemple, l'état de la copro, les DPE, s'ils ont déjà été faits, ce genre de choses. Tout ça, c'est envoyé à nos équipes. Et là, on a des analystes, donc des experts immobiliers, c'est des outils qu'on a développés en interne. Donc, essentiellement, des outils qui sont des algorithmes, de la data, mais aussi des outils pour avoir tous les comparables au même endroit. Donc, les biens comparables, c'est les biens qui vont être similaires à votre bien à vous, mais qui sont ajustés dans le temps. Donc, par exemple, si la transaction était faite en 2017, le prix aujourd'hui n'est plus le même. Et donc, comment est-ce qu'on remet cette transaction de 2017 à une valeur de 2022? Et donc, là, il y a beaucoup de data science pour avoir toutes ces informations à un même endroit. Et c'est l'expert qui prend la décision finale. Et même ce qu'on fait, c'est que plusieurs experts valorisent le même bien. Et donc, on a une sorte d'algorithme qui permet de sélectionner la meilleure valorisation ou une moyenne de la valorisation des experts pour être le plus proche possible.
D'accord.
Donc, on passe beaucoup de temps en data, en outils et en humains sur chaque valorisation pour proposer, en fait, le but, c'est de proposer les offres les plus compétitives possibles aux clients. Et ensuite, comme ça, eux, ils sont sereins, ils n'ont pas une offre qui est décotée. Et nous, on ne perd pas d'argent à faire des offres qui sont 10 fois trop élevées par rapport au prix du marché.
Et du coup, le déblocage des fonds, vous retenez les frais, les 6-7%. Oui. Au moment du versement, j'imagine, au vendeur, vous lui retirez en fait 6-7% du montant du bien.
Toujours que le net, ce que nous on appelle le net. D'accord. Vendeur. Et nous, en général, comment une offre est présentée, on va dire, bon, voilà, votre bien coûte 100 000 euros, vous allez recevoir 94 000 euros. Donc dans votre poche, qui est le net vendeur, les 6 000 euros de différence entre la valeur du bien et ce qu'on vous donne en termes de liquidité, c'est nos frais de service. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de le revendre à 100 000 pour réaliser ces frais de service. Ça nous arrive de le revendre, par exemple, à 98 000. Donc dans ce cas-là, on ne réalise pas les frais de service. On réalise un peu moins que ce qu'on avait espéré. Et ça nous arrive aussi de le rendre, par exemple, à 101 000. Et donc là, on réalise 1%, donc 1 000 de plus que le prix estimé. Notre objectif, c'est en moyenne de réaliser nos frais de service.
D'accord. Alors, au début, vous étiez exclusivement en métropole lilloise, puisque vous êtes originaire de là-bas. Vous vous êtes lancé en septembre 2021 à l'assaut du marché francilien. Alors, d'abord Paris, puis la petite couronne. Et là, maintenant, vous vous déployez donc dans la troisième grande ville de France, Lyon, et à Nantes, la sixième. Donc là, vous êtes en plein déploiement. J'imagine que ça ne va pas s'arrêter là.
Donc on a commencé à Lille, effectivement, on était originaire de Lille, donc c'était beaucoup plus simple, on connaissait un peu le marché, c'était on avait un pied à terre, on avait une voiture. Au début, c'est moi qui visitais les biens et qui rencontrais les clients. Donc, c'était beaucoup plus simple de pouvoir se dire, bon, ben, on a un endroit où loger sur notre première ville d'ouverture. Ensuite, on a ouvert à Paris, qui est la capitale, et donc beaucoup plus de biens comparables. Donc, c'est un petit peu plus facile d'affiner les estimations quand on n'était pas encore excellent du côté pricing. Là, récemment, on a ouvert deux villes et on a recruté donc, l'ancienne personne qui gérait l'expansion de Uber Eats France pour justement déployer Zephyr dans toutes les villes. Et donc là, l'idée, c'est d'attaquer les 10 plus grandes métropoles de France et de proposer le service donc, aux propriétaires. En fait, l'idée, réellement, c'est de proposer le service à le plus de propriétaires possible dans le maximum de villes. Notre challenge à nous en tant qu'entreprise, c'est d'être bon sur les estimations dans toutes les villes, même les villes qui sont en campagne ou en périphérie, où on a moins de points de données, donc c'est plus dur de proposer des offres compétitives. Et le moins on a de données, le plus on va tendance bien à être sûr. Conservateur. Et là, c'est pas bon pour le client, et donc on préfère ne pas ouvrir tant qu'on n'est pas confiant. Et donc, toute notre stratégie, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut s'étendre le plus vite possible en ayant de plus en plus de confiance sur nos estimations et pouvoir proposer des offres de plus en plus compétitives aux clients et aider le maximum de gens. Et donc, c'est beaucoup de coordination entre l'équipe d'expansion qui est d'enseignement d'Uber et les équipes de pricing qui, eux, s'occupent de valoriser les biens et de donner de la confiance dans nos offres.
Et alors, quand vous avez créé Zephyr, il y a eu un financement d'amorçage.
Oui.
Qui était alors de...
On a lancé la première transaction en juillet 2020, je crois. Ensuite, en début 2021, donc fin 2020, début 2021, on a levé 4 millions.
Oui, première levée de fonds, du coup.
Ouais. De seed avec Fred Destin, donc un super investisseur qui a investi dans Deliveroo et d'autres boîtes qui sont très bien sorties aux US et aux États-Unis, au Royaume-Uni, Et ensuite, là, donc on a continué à développer l'entreprise, parce qu'à l'époque, on n'était que deux. On a commencé à recruter, développer les opérations, aider plus de clients. Et maintenant, on vient de lever 20 millions avec Sequoia Capital, qui est le meilleur fonds du monde, qui a investi dans Airbnb, Apple, Instagram, etc. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de continuer à s'étendre en France, puis en Europe. Mais essentiellement, je dirais, les 20 millions servent à déployer la France et grossir les équipes. Parce que là, on recrute 150 personnes, dont 50 sur le trimestre... De mars à juin.
Ça vous permet donc de vous structurer, de se déployer et de multiplier, j'imagine, aussi le volume de transactions.
Oui.
Et justement, alors, à combien s'élève le montant global des transactions pour l'année 2021?
Oui, alors 2021, c'est une bonne question. Je crois qu'on a fait un peu plus de 200 millions. Là, on commence à bien grandir. On a fait plus de 50 transactions le mois dernier. Donc l'idée, c'est toujours de toujours grandir. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à 1 milliard de transactions annuelles. D'ici
pour 2022.
Ouais, fin 2022, début 2023, ce sera plus ou moins l'objectif.
Alors au départ, vous n'opériez que pour des biens n'excédant pas 750 000 euros. Est-ce que maintenant le plafond a changé
ou... Alors en fait, ça dépend vraiment des villes. Donc, c'est-à-dire qu'à Paris, on est à un peu moins du million, je dirais.
D'accord.
Et donc on est souvent sur la limite parce qu'il y a des biens qui coûtent plus cher, le prix au mètre carré est plus cher. Et en fait, la manière dont on réfléchit à ça, c'est de se dire on a envie d'être assez proche de la moyenne de la zone géographique. Et donc, on n'a pas envie de s'éloigner trop et donc faire des biens qui sont trop premium ou alors qui ont besoin de trop de travaux, parce qu'encore une fois, très peu de données, très dur de les estimer. Et là, ce n'est pas notre expertise. Et en général, on conseille aux vendeurs d'aller vers des agences traditionnelles ou alors de le vendre de particulier à particulier. Et donc, à Lille, on est, je crois, de 100 000 à 750 000. Et à Paris, on va jusqu'au million, mais c'est un peu de cas par cas quand on s'approche, quand on dépasse les 900 000, parce que ça dépend vraiment du bien, de la zone, du quartier, etc.
D'accord. Alors c'est parti, on va parler de la création maintenant de Zephyr. Donc vous étiez deux, vous l'avez dit tout à l'heure, deux originaires de la métropole lilloise. Comment, alors c'est venu d'une histoire personnelle, je crois que c'est vous et votre grand-mère, la maison de votre grand-mère.
Oui. Oui, alors en fait, historiquement, c'était mon père qui essayait de vendre la maison de ma grand-mère suite à son décès. Et donc, il y avait une maison dans le sud de la France. Et l'idée, c'était de la vendre pour acheter un appartement. Et en fait, ils ont mis plus d'un an à la vendre. C'était une maison un peu d'été, donc ils se vendaient en plus que sur certaines saisons, l'hiver, impossible à vendre. Et donc, il suffit de rater un été, qu'on se retrouve encore l'été d'après. Et donc, mon père est resté avec la maison pendant un an et demi à peu près. Hyper dur de la vendre, beaucoup d'incertitudes sur le prix, il avait du mal à s'engager du coup sur l'appartement. Et au final, quand il a finalement vendu pour acheter l'appartement, l'appartement avait pris 20 000 euros, puisque les prix à Lille avaient pris 20 000 euros. Et déjà, il a eu de la chance, parce qu'il connaissait le vendeur de l'appartement du Nord, de pas le perdre, parce que n'importe quelle autre personne aurait juste raté l'appartement ou la maison de ses rêves. Et donc, on s'est vraiment rendu compte à quel point c'était dur de vendre et d'acheter en même temps. Et donc, c'est là qu'avec Louis, mon cofondateur que je connais depuis 15 ans, qu'on a commencé à se dire « Ok, bon, peut-être une autre manière de vendre qui est plus simple, qui est plus rapide, qui est plus sereine que le process traditionnel, qui est quand même très incertain du fait que l'immobilier reste quand même assez illiquide ». Et donc c'est là que c'était un peu de là que c'est parti, et ensuite Zephyr, enfin la création de Zephyr.
Et à l'époque vous faisiez quoi du coup? Vous étiez salarié, étudiant?
Alors à l'époque j'étais en stage en fonds d'investissement, donc j'avais fait un stage juste avant à BlackRock à Londres, qui est un fonds d'investissement dans plein de différentes choses, et ensuite en private equity. Donc à l'époque j'ai quitté le private equity, qui est de l'investissement dans c'est plus des startups, c'est dans des entreprises privées, donc avant qu'elles aillent en bourse. Donc par exemple, c'était PAI Partners, ils avaient Kiloutou, là une filiale de glace de Nestlé, donc c'est pas des startups, c'est comme des grosses boîtes, mais non cotées. Et donc je faisais ça, et donc Louis avait commencé à investir dans les crypto-monnaies à l'époque.
D'accord.
Quand c'était un peu moins connu, ça avait plutôt bien marché, et donc il était venu me voir en me disant ok, il faut arrêter la finance traditionnelle, il faut se mettre aux crypto-monnaies.
Il est toujours dedans d'ailleurs.
Oui, on est tous les deux. Mais au début, j'étais en mode non, c'est pas quelque chose pour. Enfin, c'est pas intéressant. Enfin, j'avais un peu poussé le truc sur le côté en restant un peu sur le chemin traditionnel. Et au final, j'ai vu que ça marchait hyper bien pour lui, donc j'ai commencé à me dire ok, peut-être. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté le fonds et qu'on s'est dit ok, on a envie de commencer à réfléchir à des idées, à monter quelque chose ensemble. Je me suis dit, bon, bah, j'ai envie quand même d'avoir un filet de sécurité, parce que je quitte une industrie qui est assez sécurisante pour de l'inconnu. Et donc là, on a pris un prêt et on a investi dans les cryptos. Et donc, on a un peu professionnalisé l'investissement. Et donc là, ça a très bien marché à ce moment-là. Et donc, on a eu notre premier capital de départ pour monter une première boîte qui n'était pas une boîte dans l'immobilier, qui était une boîte de biotech. Donc, rien à voir, hyper ambitieuse, très scientifique.
Et pourquoi la biotech?
Alors ça, c'est une longue histoire qui n'a rien à voir avec l'immobilier, mais l'idée, c'était de se dire, si je vous la fais en rapide, c'était de se dire que la technologie était exponentielle, parce qu'elle a été inventée il y a 250 ans et quelques, et l'humain est assez statique, donc l'espèce humaine actuelle, qui est l'Homo sapiens, ça a 250 000 ans, et donc si on tirait un peu les traînes, on se disait, bon bah, si vous voulez, l'humain est assez statique, la technologie est exponentielle, il va avoir un écart entre les deux, pardon, de plus en plus fort. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre en fait l'humain sur la courbe exponentielle de la technologie? Et le facteur limitant qu'on avait identifié, c'était la communication avec la technologie. Où aujourd'hui, vous retenez pas un numéro de téléphone, c'est plus quelque chose qu'on fait en 2022, parce que il y a une extension de la mémoire qui est juste le téléphone, et on communique avec lui, avec soit avec la voix, soit avec les doigts, soit avec un clavier et une souris, ce qui est à peu près 150 mots minute. Et on se disait, bon bah ça, si on veut avoir vraiment une symbiose entre les deux, il faut une communication entre technologie et humain qui est beaucoup plus forte, et donc il faut pouvoir communiquer autrement qu'avec le voice ou ses pouces. Et
donc le cerveau, j'imagine.
Le cerveau, du coup, et donc d'où le bio. Et en gros, l'idée, c'était de se dire, bah, comment est-ce qu'on peut lire l'activité cérébrale avec un produit qui est assez mainstream, comme un iPhone. L'idée, c'était pas de faire un truc de science-fiction et non invasif, donc sans rentrer dans le cerveau, parce qu'il y a des méthodes qui se veulent invasives, mais qui sont plus médicales.
Mais qui font un peu peur, enfin qui font très peur, mais... un peu.
Ouais, forcément, personne n'a envie de se mettre quelque chose, de se mettre une puce ou quoi que ce soit.
On n'est pas encore ouvert à ça, peut-être dans quelques années,
peut-être, mais. Peut-être, et encore, à voir. Mais bon, Elon Musk essaye, donc à voir comment ça évolue. Et non invasif, ça veut dire lire de l'extérieur. Au final, c'était un sujet de recherche qui est quand même assez...
Avec des capteurs, du coup.
Assez gros, exactement, avec des capteurs. Mais en fait, c'est ce que c'est de faire une IRM. Et il y a plein de parties de la médecine qui cherchent à lire le cerveau pour toutes les maladies cérébrales, la dépression. Enfin, on comprend très peu le cerveau, au final. Et donc, ça s'est retrouvé être un projet très, très compliqué. Donc, on a fait des partenariats de recherche avec l'ENS. On a développé toute la côté scientifique. On avait une expérience de labo. Mais entre une expérience de labo et un produit fini, il y avait quand même beaucoup de milliards d'euros et beaucoup d'années. Et on n'avait pas ni l'expérience, ni le recul, je pense, pour prendre un projet aussi gros et en faire quelque chose de viable. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, ok, bon, bah, c'est peut-être pas le bon timing avec assez d'argent pour faire ce genre de choses. Surtout quand on regarde la réalité virtuelle, qui, elle, a mis des milliards et des milliers de personnes... Et aujourd'hui, je connais très peu de personnes avec un casque de réalité virtuelle.
Oui, c'est vrai. Du coup, alors, vous êtes focalisé sur l'immobilier, quelque chose de beaucoup plus connu, de plus vieux, de plus, alors j'ai envie de dire plus sûr pour vous, en tout cas, pour Zephyr. Et la preuve en est, puisque ça marche très, très bien. Alors, combien vous êtes de collaborateurs aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est 70. Ouais. Et donc, on recrute 50 sur le trimestre. Donc, on va être 120 à peu près, 120-130 à l'été. Et
donc
l'idée, c'est d'être à peu près 200-250 pour fin 2022.
Vos collaborateurs sont situés où?
Partout. Donc on vient de recruter d'ailleurs en Espagne. Donc on est très flexible. Donc les gens peuvent travailler de chez eux, du bureau, ou soit de chez eux, soit du bureau. Et donc on a des gens qui sont totalement en télétravail de Marseille, d'autres d'Espagne et d'autres qui sont tout en bureau.
Ça, quand vous faites des recrutements, c'est quelque chose qui vous est demandé? Quand c'est des recrutements, par exemple, à côté de votre siège, c'est à Lille, toujours le siège
à Paris.
À Paris, d'accord. C'est quelque chose, le télétravail, c'est quelque chose qui est demandé par...
Oui. De plus en plus, et surtout sur certaines populations, par exemple les populations tech, qui elles travaillent beaucoup à distance, avec des procédés qui n'ont pas besoin d'être en physique. Donc là, forcément, si on veut avoir une très forte équipe technologique, on a besoin de, bah, de proposer ce type de travail. Et même dans tous les cas, je pense que d'un point de vue entreprise, nous, on croit fort à ne pas faire du présentéisme, à ne pas avoir, quand on n'a pas besoin d'être en présentiel, c'est juste adapter les méthodes de travail pour permettre de donner la flexibilité aux gens. Et les gens qui sont bons le demandent et dans tous les cas le trouveront ailleurs. Donc,
Et justement, les gens qui sont bons, les talents, vous les recrutez comment ? Parce qu'on parle d'une pénurie de talents en France. Les entreprises ont du mal à recruter et voilà, elles proposent, elles essayent d'amadouer un petit peu les talents. Comment vous vous y prenez chez Zephyr ?
Ouais, c'est une très bonne question. C'est assez compliqué en vérité. On a donc on a plein de méthodologies. On fait plein de choses. Essentiellement, on contacte des personnes, donc que ce soit sur LinkedIn, sur des plateformes, etc. On a beaucoup de demandes entrantes, on doit recevoir 3000 à peu près par mois, mais c'est toujours assez compliqué de trier, de savoir si c'est les bonnes personnes qu'on a besoin, etc. Et donc on a beaucoup d'équipes et beaucoup de ressources, et on dépense beaucoup d'argent pour aller chercher les personnes qu'on a besoin sur des rôles spécifiques, dans des entreprises qu'on connaît, qu'on respecte, et donc on essaie forcément d'alimenter tout ça, mais c'est très dur. Ça coûte très cher. Et,
c'est des chasseurs, en fait, que vous...
Oui, ouais. On a des chasseurs, et donc on a en interne et en externe. Et c'est comme vous dites, c'est très pénurique. Ouais. Tout le monde fait ça. Et donc le marché du travail, je pense que c'est un peu une... Le marché... Il y a beaucoup de fonds sur les marchés, donc ça a été favorable aux entreprises. Les entreprises ont collecté beaucoup de fonds, et maintenant, ils essaient tous d'avoir un pool de talents qui est assez limité. Et donc, ça devient, je dirais, par effet de ruissellement... favorable pour le marché du travail, ou si vous êtes bien positionné sur un secteur qui est porteur et que vous êtes performant, bah, y aura beaucoup d'entreprises qui vont venir toquer à la porte, beaucoup d'offres compétitives, et donc du coup un marché pénurique pour les entreprises, et favorable aux employés.
On va parler de votre parcours. Alors, vous avez fait des études, donc vous êtes parti déjà à Londres. Avant ça, qu'est-ce que vous avez fait du coup ?
Ouais, j'ai fait Centrale Lille, donc une école d'ingénieur, et ensuite un master à Polytechnique que j'ai arrêté quand j'ai monté l'entreprise avec Louis.
D'accord.
Donc essentiellement école d'ingénieur.
Donc Centrale à Lille.
Et donc ouais, et ensuite on a lancé Zephyr, enfin, on a même lancé la boîte de biotech quand on était donc quand j'ai au moment de Polytechnique. Donc au final j'ai fait juste le temps de faire Centrale, le master, partir, et donc j'ai jamais travaillé réellement en CDI.
Donc vous aviez juste fait des stages donc dans les fonds comme vous en parliez tout à l'heure.
BlackRock, c'est dont on parlait tout à l'heure.
Et alors quand vous étiez juste dans ces stages, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit bon bah voilà je vais travailler dans les fonds toute ma vie, c'est assez dur hein, le rythme est assez soutenu quand on bosse dans un fonds. Oui. Est-ce que ça vous l'envisagiez pour votre carrière ou pas du tout, ou déjà dès le départ vous êtes dit j'ai envie d'être mon propre patron?
Je pense pas que j'avais l'ambition d'être mon propre patron, c'était pas ce qui m'a motivé. Je pense que la réalisation que j'ai eue quand je suis arrivé dans les fonds... Tu vois, je suis venu dans les fonds en me disant, un peu naïf, j'étais assez jeune, et je me suis dit, bon, bah, c'est les endroits qui payent le mieux.
Il y a beaucoup d'argent à faire.
J'imagine que... Et c'était même pas pour l'argent, je pense que je me suis dit, bon, bah, ça doit être les personnes qui sont les plus intelligentes, et j'avais envie de m'entourer de personnes intelligentes, et donc je me suis dit, un peu par défaut, ça doit être le secteur intéressant. Et au final, en arrivant dans le secteur... C'est pas forcément vrai. Bon, les personnes sont intelligentes parce que forcément ça paye bien, donc ils peuvent se permettre des entreprises de trier et de prendre entre guillemets les meilleurs. Mais c'est un type de profil qui n'était pas forcément le mien, qui était des gens qui essayaient en fait de maximiser l'argent que eux-mêmes allaient réussir à gagner, tout en minimisant le risque. Et je pense que j'avais un appétit du risque qui était un peu plus fort et pas un besoin d'argent ni une envie d'argent qui était forcément élevé. J'avais aucune charge. Aucun intérêt, ça change rien que je gagne X ou Y. Et donc, à partir du moment où je suis arrivé, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est que des gens qui sont un peu trop risque-averse et qui n'ont pas forcément envie de tenter, d'essayer des choses. Moi, j'étais très jeune et donc je me suis dit, bon, j'ai pas envie de me mettre des menottes et de partir dans ce type de formation. J'avais l'occasion et la chance d'avoir Louis qui me proposait d'autres alternatives. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait le choix de tenter le chemin le plus risqué, sachant que ça aurait pu totalement rater. Et à ce moment-là, bon, bah, on repart à zéro. Comparé à quelque chose qui est beaucoup plus sécurisant en vérité en fonds d'investissement.
Et comment vous voyez l'avenir de Zephyr alors dans je sais pas 5, 10 ans ?
Oui, alors très bonne question. La vision, donc on en a plusieurs. L'idée c'est de se dire on veut vraiment devenir le point central du changement de vie. Et donc en fait que les gens viennent, sur toute l'Europe, qui viennent chez Zephyr pour se dire je veux vendre mon bien, je veux acheter mon bien, je veux obtenir mon crédit, tous les services adjacents. Les besoins de vente et les besoins d'achat, pensez Zephyr, vous venez sur la plateforme et on a un service, une marque de confiance qui vous le propose. Et donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut un petit peu prendre l'immobilier et le mettre sur les standards de l'e-commerce et proposer un service qui est de meilleure qualité avec une marque de confiance sur laquelle vous dites, bon, bah, c'est pas un agent immobilier, vous savez pas trop, vous savez pas qui il est, vous savez pas trop, il est pas forcément bien aimé, ou les notes, vous savez, vous êtes pas certain. Là, vous avez une marque de confiance sur laquelle, s'il y a quoi que ce soit, bah, vous pouvez la contacter et vous êtes remboursé. Un service qu'on a l'habitude de voir sur les plateformes en ligne, qui n'est pas forcément encore les standards de l'immobilier. Et donc, comment est-ce qu'on peut prendre vraiment l'immobilier, le mettre sur ces standards-là et proposer tout un service de changement de vie?
D'accord. Bon, en tout cas, on vous le souhaite. Dernière question, quel conseil vous donneriez aux futurs entrepreneurs ou personnes qui hésitent un petit peu, qui sont peut-être salariés ou qui font leurs études, qui ont cette idée en tête mais qui n'osent pas?
Bah, j'irai y aller. En tous les cas, il faut se lancer, il faut lancer le produit. Le plus vite vous lancez le produit, le mieux. Parce que moi, l'erreur que je vois souvent aussi des gens qui essayent de se lancer, c'est qu'ils vont faire des cycles très longs où ils vont réfléchir en business plan. Ils vont se dire, bon, bah voilà, je vais lancer mon service dans 3, 4, 5 mois. Est-ce que je dois faire tout ça pour lancer mon service? Pour lancer aujourd'hui, c'est hyper facile. Il y a énormément d'outils. Vous n'êtes même pas obligé de quitter votre travail. Juste ouvrez un site internet, proposez quelque chose. Mettez-le en ligne et commencez à chercher à voir s'il y a des gens qui sont intéressés par votre produit. Donc je dirais, lancez-vous, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Après, tout le monde a des situations différentes.
Pas être trop perfectionniste, du coup?
Non, du tout. Je pense que c'est pas... Faut mieux avoir une approche itérative. Donc itérative qui est se lancer, rater, comprendre pourquoi on a raté, se relancer, rater. Et donc je pense qu'il n'y a jamais personne qui a lancé en... J'allais dire en one shot, mais je ne sais pas si c'est très clair, mais qui a lancé en...
Bien sûr, il y a toujours des réajustements à faire, oui. On essaye, on recommence.
À nous, Zéphir, on est passé par, si ça rassure peut-être notre expérience personnelle, on est passé par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itérations avant de trouver le modèle, ce qui plaît.
La bonne formule.
La bonne formule, et on continue encore d'itérer, puisqu'on a encore plein de choses à apprendre, et on en apprend tous les jours de nos clients qui nous disent, mais en fait, ça, c'est pas super, ouais, ça, vous pourrez mieux faire.
À chaque fois que la start-up grossit, en fait, on est obligé de réajuster, c'est une nouvelle formule, enfin, il y a d'autres contraintes qui arrivent.
Oui, clairement. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est de se lancer, d'aller le plus vite possible, de rater, de continuer, d'être déterminé.
Merci beaucoup, Rémi Fabre, président et cofondateur de Zéphir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Startup.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.